Vous écoutez, on lit pour vous.
Les hommes au volant, fléau sur la route. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. Fin novembre 2024, dans l'arrondissement montréalais de Verdun, le conducteur d'une camionnette roulant à grande vitesse a brûlé plusieurs arrêts et heurté une voiture de plein fouet, tuant sur le coup son occupant, Sylvain Martel, un homme de 55 ans. Kyle Joshua Monast conduisait avec des facultés affaiblies et sans permis puisqu'il était en attente d'un procès pour une autre infraction d'intoxication au volant. Deux jours plus tard, le 1er décembre 2024, à Laval, un autre chauffeur était arrêté, lui aussi pour conduite avec les facultés affaiblies, après une embardée au milieu de la nuit. Une jeune passagère a été grièvement blessée. Les deux cas rapprochés le rappellent tragiquement. Les conducteurs masculins sont impliqués dans la grande majorité des accidents mortels et des accidents causant des blessures graves. Les cas de conduite avec faculté affaiblie forment la pointe extrêmement choquante de cet iceberg genré. Les plus récentes statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, obtenues par Le Devoir, confirment l'implication des conducteurs dans ces deux types d'accidents à peu près trois fois plus souvent que celle des conductrices. Les hommes détiennent à peu près le même nombre de permis de conduire, près de 3 millions que les femmes, près de 2,8 millions. Les hommes ont été mentionnés au volant en 2022 dans 425 accidents mortels et les femmes dans 129 seulement. Un rapport de plus de 3,3 pour 1. Les conducteurs sont en plus cités dans 1106 accidents causant des blessés graves et les conductrices dans 390, cette fois, pour un rapport de 2,8 pour 1. Dans les cas d'incidents avec blessés légers, on passe de 20 718 pour les hommes à 13 870 pour les femmes. Des tendances lourdes. Ces données confirment des tendances lourdes bien connues de Marie-Claude Ouimet, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, spécialiste de la compréhension et de la prévention des comportements routiers à risque. Elle rappelle que les proportions restent similaires pour les années précédentes, entre 2016 et 2021. C'est bien connu que les hommes sont plus impliqués dans les collisions mortelles et dans les accidents avec blessés graves, dit Mme Ouimet. La SAAQ rapporte le nombre de conducteurs impliqués dans des collisions et non pas le nombre de conducteurs responsables de collisions, puisque le système d'indemnisation québécois ne tient pas compte de la responsabilité des conducteurs. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour expliquer ces résultats. Le nombre de permis de conduire, les kilomètres et les trajets parcourus, le fait que les femmes sont plus souvent passagères que les hommes, etc. Reste que les collisions mortelles ou avec blessés graves s'expliquent difficilement uniquement par tous ces facteurs. Il faut aussi tenir compte de la manifestation de comportements routiers à risque. Les hommes sont tout simplement plus impliqués dans les infractions et adoptent les comportements les plus à risque, par exemple les grands excès de vitesse et la conduite avec capacité affaiblie. Toutes les statistiques de la route s'affolent du côté mâle. La conduite avec des facultés affaiblies compte pour 93% des infractions au code criminel et les hommes totalisent 80% de ces criminels au volant. Les conducteurs de sexe masculin comptent pour les deux tiers, 67,7% des contrevenants au code de la sécurité routière, mais pour la moitié, 51,8% des titulaires de permis selon les données de la SAAQ de 2021. Les hommes se retrouvent en fait en surnombre dans toutes les formes de délinquance, de violence et de comportements asociaux. Cette virilité violente entraîne des coûts énormes pour les sociétés. Vous écoutez « Les hommes au volant, fléau sur la route », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. Alors, que faire? Comment s'attaquer à ce fléau genré? À vrai dire, on le fait déjà largement, même s'il reste beaucoup à faire, note Marie-Claude Ouimet. Dès qu'une personne décède, c'est une personne de trop, dit-elle. Mais sur plusieurs années, les données montrent des baisses importantes dans les collisions mortelles ou avec blessures graves. Depuis les années 1970-1980, plusieurs facteurs ont contribué à la baisse importante des collisions, dont les lois, leur application et les campagnes de promotion des comportements sécuritaires. Le nombre total de personnes mortes dans un accident de la route est passé de 417 en 2012 à 392 en 2022. Le tableau s'avère plus spectaculaire pour les personnes gravement blessées avec un recul de 1966 victimes à 1275 en une décennie. Il est important de viser une prévention générale, ajoute la spécialiste, pour refroidir l'idée d'éventuellement mener des campagnes éducatives, publicitaires par exemple, ne visant que les conducteurs objectivement plus à risque. Je veux dire que la prévention s'adresse d'abord à toute la population. Ensuite, il est important de mettre en place des actions qui visent spécifiquement à prévenir certains comportements à risque, qu'ils soient manifestés par des hommes ou des femmes, bien que moins fautives. Les campagnes éducatives sont importantes, mais elles ne sont pas efficaces lorsqu'elles sont utilisées seules. L'éducation avance en cordée avec la répression. Ottawa a modifié le code criminel au tournant de la décennie pour sanctionner davantage les chauffeurs reconnus coupables de conduite avec des facultés affaiblies, causant la mort ou des blessures graves. Les tribunaux s'adaptent lentement avec des peines parfois plus sévères. La SAAC surveille et punit aussi des contrevenants avec ses propres moyens. Le système des points d'inaptitude liés au permis de conduire en fait partie. Un titulaire fautif perd son droit de conduire une fois sa banque de points épuisée sur une période donnée. Au moment d'une condamnation, un tribunal peut aussi rallonger les délais d'interdiction de permis pour plusieurs années. Par contre, la SAAC n'impose pas de sanctions financières, ne fait pas payer de suppléments aux hommes pour l'obtention de leur permis ou l'immatriculation de leur véhicule. Les assureurs privés exigent pourtant des primes différentes des clients et des clientes en basant les calculs actuariels sur les comportements à risque des unes et des autres. La loi interdit de discriminer, notamment en fonction de l'âge, de la région et du sexe, explique par courriel Geneviève Perron, relationniste de la SAAC. Punir plus? Il serait aussi possible de sanctionner bien plus sévèrement certains comportements à risque. Au Québec, un très grand excès de vitesse, rouler à 100 km/h dans une zone de 60 km/h, par exemple, coûte 380 $. Le maximum est fixé à 1980 $ à la première infraction. Dans certains pays d'Europe, les contraventions pour excès de vitesse se calculent en proportion des salaires. Et cela peut faire très mal au portefeuille. En Norvège, les sanctions peuvent atteindre 10 % du revenu annuel. En Finlande, en 2004, un industriel a payé 170 000 euros pour avoir conduit à 80 km/h dans une zone de 40 km/h. Ce qu'on voit dans nos recherches, c'est que certaines personnes ont des caractéristiques qui les prédisposent moins à être réceptives aux mesures de dissuasion habituelles, comme les sanctions et les peines, commente de manière générale Marie-Claude Ouimet. Je ne pense pas qu'en haussant au maximum les amendes et les points d'inaptitude pour des infractions, on va changer le comportement de tous les gens réfractaires. Marie-Claude Ouimet évoque d'autres moyens pour contrer ces nuisances parfois mortelles, dont l'utilisation accrue de nouvelles technologies dans les véhicules. Antidémarreurs éthylométriques, limiteurs de vitesse sur les véhicules ou radars photo. Elle souligne aussi que l'aménagement du territoire et des villes joue aussi un rôle dans la vitesse choisie par les conducteurs. C'était « Les hommes au volant ». Fléau sur la route, un texte de Stéphane Baillargeon paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. la maison des aînés ouvre finalement ses portes à Val-d'Or. Un texte de Zacharie Desrosiers, paru le 22 novembre 2024 dans Le Citoyen. Après de nombreux retards et attentes, la maison des aînés de Val-d'Or est finalement ouverte et elle a été inaugurée lors d'une conférence de presse le 22 novembre. En raison de la pénurie de main-d'œuvre, l'ouverture a été retardée à plusieurs reprises. C'est maintenant chose du passé, alors qu'a été dévoilée la 36e maison des aînés au Québec. Un total de 48 places sont disponibles pour les personnes âgées, dont 36 pour ceux avec des déficiences intellectuelles ou physiques. L'endroit apporte une approche axée sur les valeurs de la personne et déjà 19 personnes ont été accueillies dans l'immeuble flambant neuf. On n'est pas dans un modèle de routine de soins. J'ai donné l'exemple tantôt des personnes qui sont habituées de prendre leur petit déjeuner à 7 heures le matin, d'autres à 10, d'autres qui ne prennent pas de petit déjeuner vont simplement aller au dîner. Alors, voyez un peu, en institution, il y a des routines établies. C'est difficile de changer la routine pour répondre aux besoins des personnes. Mais ici, c'est vraiment une démarche inversée, a expliqué la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé Sonia Bélanger lors de sa première visite en Abitibi-Témiscamingue. Une nouvelle beauté pour les CHSLD. En plus de l'ajout de maisons des aînés, certains CHSLD seront revampés. Plusieurs établissements datent d'une autre époque et, selon la ministre Bélanger, ces nouvelles maisons apporteront du changement. Alors là, on vient de créer de la place pour ces personnes. Et ces personnes qui étaient déjà dans des CHSLD vont libérer des places. Ça va permettre aussi à d'autres personnes aînées d'aller en CHSLD. Il faut que je vous mentionne que les maisons des aînés, il y en a deux ici en Abitibi. J'en ai 46 au Québec. Et on est rendu à 35 inaugurations. En parallèle, nous allons aussi rénover et reconstruire des CHSLD publics qui sont parmi les plus vétustes au Québec. Alors, on travaille sur deux plans. Actuellement, il y a 19 CHSLD identifiés parmi les plus vétustes au Québec qui sont à toute fin pratique difficilement rénovables. Alors ceux-là, on va les reconstruire en maison des aînés. C'est une première au Québec, un prototype. On a appris au fur et à mesure des 35 qui sont ouvertes. On s'est amélioré en cours de route et on va continuer de bonifier ça. Mais on a vraiment un modèle qui est très porteur pour nos CHSLD, termine Mme Bélanger. Le coût, frôlant les 38 millions de dollars, a permis la création de cette infrastructure, comblant ainsi un besoin important à Val-d'Or. L'inauguration de la Maison des aînés de Rouyn-Noranda a eu lieu également le 22 novembre. C'était « La Maison des aînés ouvre finalement ses portes à Val-d'Or », un texte de Zacharie Desrosiers, paru le 22 novembre 2024 dans Le Citoyen.
Chaque Canadien malade du cancer doit dépenser 33 000 $ de sa poche pour sa santé. Un texte de Mathieu Carbas paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. La somme de 33 000 $ en moyenne, c'est ce que coûte le cancer à chacun de ces malades canadiens, selon un rapport publié lundi par la Société canadienne du cancer, qui entend alerter sur le fardeau financier sur les familles que représente un diagnostic de cancer. En 2024, les malades ont ainsi payé de leur poche 20 % des coûts totaux liés à la maladie, soit 7,5 milliards de dollars. Ce montant devrait même grimper à près de 8,8 milliards par année d'ici 10 ans, en raison de la hausse du coût de la vie ainsi que de la croissance et du vieillissement de la population, avance l'étude à laquelle ont notamment contribué Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada à partir de l'analyse réalisée par le Partenariat canadien contre le cancer. Pour les malades, les coûts à payer comprennent les frais pour les médicaments sur ordonnance, les soins à domicile, certains appareils ou encore les déplacements et l'hébergement. Il y a aussi les pertes de revenus durant les phases de traitement et de rétablissement. Durant la première année de soins, ces coûts sont estimés à 5,2 milliards de dollars, atteignant même près de la moitié de ceux à la charge des systèmes de santé. Nous vivons dans un pays doté d'un système de santé universel. Pourtant, la facture est encore très salée pour les personnes atteintes de cancer, avance David Reynaud, gestionnaire principal à la Société canadienne du cancer, qui en appelle au gouvernement. Il s'agit d'un problème systémique et social qui ne peut être résolu en vase clos. Nous savons que trouver une solution est une tâche complexe, mais des choix s'offrent au gouvernement pour réduire les coûts qui pèsent si lourdement sur la population. J'ai eu droit à 15 semaines de chômage. That's it. Vanessa Percoco a reçu un diagnostic de cancer colorectal en 2022, à l'âge de 31 ans, alors qu'elle poursuivait des études à temps plein en enseignement. Peu avant son diagnostic, elle avait décroché un contrat de remplacement entre deux sessions. Tout s'est arrêté brusquement. Ma vie a changé, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai changé ma garde-robe parce que j'avais un nouvel appareillage sur moi, à la suite d'une iléostomie, elle devait porter en permanence un petit sac accroché au ventre. J'ai dû commencer une chimiothérapie, faire une ponction pour préserver des ovules. Ma vie était juste dans les hôpitaux, entre deux rendez-vous cliniques, j'étais en déplacement constamment, confie-t-elle en entrevue au Devoir. Finalement, 12 traitements de chimiothérapie et une opération de 12 heures plus tard, Vanessa s'en sort. Mais si elle a réussi à vaincre le cancer, son combat ne dit rien des obstacles financiers qu'elle a rencontrés. « J'ai dû arrêter de travailler pour prendre soin de moi, pour vaincre le cancer, mais aussi pour guérir mentalement. C'est très difficile à traverser. Et pour y arriver, moi, j'ai eu droit à 15 semaines de chômage. That's it. » Alors qu'elle vient de commencer un nouvel emploi, Vanessa n'a pas droit aux assurances, seulement 15 semaines d'assurance-emploi sur plus de 2 ans de traitement, se désole-t-elle. Son assurance-vie qu'elle paye depuis l'âge de 22 ans ne peut pas l'aider. « Non, il faut mourir », lui a-t-on répondu. Finalement, elle réussit à garder la tête hors de l'eau grâce au soutien financier de ses proches. Ce n'est pas agréable de se demander « Est-ce que je dois me payer ce médicament pour contrer les effets secondaires de ma chimio ou payer mon loyer? » 15 000 $ de dépenses. Durant ses traitements, Vanessa Percoco doit payer des factures de médicaments, des frais liés à sa stomie digestive, y compris le renouvellement des poches de stomie tous les 4 jours, les séances de physiothérapie, les consultations en ostéopathie et les visites chez une nutritionniste. Au total, elle évalue à 15 000 $ les dépenses liées à son cancer. Il faudrait un programme spécial pour les gens atteints d'un cancer, ne serait-ce que d'accorder un petit montant pour aider. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont aidé financièrement. Tous les gens n'ont pas la même chance, affirme-t-elle. Pourquoi on devrait stresser à propos de l'aspect financier alors qu'on ne sait même pas si l'on va s'en sortir? C'est très injuste. C'était « Chaque Canadien malade du cancer doit dépenser 33 000 $ de sa poche pour sa santé », un texte de Mathieu Carbas paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir.
Monsieur Mobilité. Un texte de Luc Boulanger paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Auteur, chroniqueur, politicien municipal, gestionnaire et retraité depuis juillet 2024. Michel Labrec aimerait écrire un livre dont le titre serait « Petit manuel du vieux militant à l'intention de ses petits-enfants ». Discussion avec un utopiste pragmatique. On rencontre Michel Labrec au cœur de son fief du plateau Mont-Royal. Pour jaser avec lui, des problèmes de circulation en ville. Au café de la Maison des cyclistes, qu'il a cofondé, à deux pas du parc La Fontaine et de la piste cyclable Rachel, Montréal oblige, celle-ci était déviée pour cause de travaux de réaménagement des intersections en pôle de mobilité durable. Je n'ai aucun problème à parler vélo et à aborder la sempiternelle question des maudites pistes cyclables qui enlèvent de la place aux autos et aux stationnements, qui nuisent au commerce et qui sont déblayées l'hiver, avant les rues, suprême insulte, et de ces cyclistes arrogants qui s'abreuvent à l'idéologie woke écolo-gauchiste et culpabilisent les automobilistes qui achètent à gros prix les Tesla d'Elon Musk pour sauver la planète. Mais j'ai joué dans ce film il y a 30-40 ans. Sauf qu'à l'époque, lorsque Michel Labrec parlait du vélo dans les médias, tous les journalistes et animateurs lui disaient « Va-t'en en Hollande, puis sacre-nous patience. Tu ne feras pas pédaler nos grands-mères en plein hiver. » Or, aujourd'hui, le journaliste veut d'abord savoir à quel moment le vélo est devenu une idéologie. « Depuis toujours, » répond Michel Labrec, « tout comme l'automobile est une idéologie. » Ce n'est pas un moyen de transport? Non. L'automobile est une idéologie rattachée à la croissance, au développement industriel, à la surconsommation. À l'heure actuelle, il y a des centaines de milliers de voitures chinoises stationnées dans des ports d'Europe et d'Asie qu'on n'achète pas, parce qu'on veut en fabriquer. L'automobile est essentielle à la grande marche industrielle. C'est la deuxième source de dépenses des gens, après le logement et devant la nourriture. Un cocktail de transport. Bien sûr, Michel Labrec ne veut pas faire pédaler nos aînés dans la neige. Toutefois, il aimerait nous faire réfléchir à un autre cocktail de transport où l'on retrouve la voiture en libre-service, le transport collectif, le covoiturage, la marche, le vélo, le bixi. Le parc des voitures augmente en même temps que l'utilisation du vélo, dit-il. Dans le cocktail actuel, on a négligé le transport collectif. Pour que la motorisation ne progresse pas follement, on est obligé de reprendre des bouts de rue, d'avenue. Or, c'est comme si on arrachait des molaires aux citoyens. En trois décennies, avec l'aménagement d'un réseau cyclable de qualité à Montréal et en région, la pratique du vélo a fortement augmenté et les accidents avec des cyclistes ont diminué, remarque Michel Labrec, non sans fierté. Il y a une puissante vague autour de la mobilité durable. Le vélo est devenu le moyen de transport de plusieurs citoyens, sans grosse campagne de marketing, alors que la publicité pour acheter des voitures neuves représente une industrie de plusieurs milliards de dollars. Je le dis avec beaucoup de prudence, mais rétrospectivement, on a gagné, se réjouit Michel Labrec. En même temps, il ne veut pas culpabiliser le conducteur d'automobile. Selon lui, la société industrielle a organisé nos vies pour nous rendre dépendants des voitures. Les gens sont pressés, admet-il. Ils rentrent du travail et se dépêchent d'aller au CPE. Ils arrêtent au centre d'achat avant de souper, puis vont reconduire les enfants au soccer. La voiture est un véhicule de l'impatience. Alors, comment peut-on réconcilier le conducteur pressé et le cycliste invétéré? « Ça ne se fera pas, » répond-il. « On n'est pas dans un processus de réconciliation, mais dans le partage d'un espace commun limité. » Tranquillement, les gens réagissent. Ce n'est pas normal qu'un enfant se fasse tuer par une voiture au coin d'une rue en allant à l'école ou en traversant l'avenue du parc pour faire une course pour ses parents. Avant, on aurait dit « C'est un accident, ça peut arriver. » Plus maintenant. Un code de la rue. Lorsqu'on l'interroge sur le syndrome des cônes oranges et le dédain de la métropole par une partie de la population, l'ex-conseiller à l'hôtel de ville sous Gérald Tremblay se dit très fier d'être Montréalais. « Moi, j'adore Montréal. Chaque fois que je reviens de voyage, je bougonne. Je me demande pourquoi on n'est pas plus efficace. Pourquoi il y a autant de choses toutes croches. Je bougonne, mais j'adore Montréal. Ses quartiers, ses gens. Les Montréalais adhèrent aux projets les plus fous, comme le Tour de l'île ou Montréal en lumière, un festival extérieur à 30 degrés sous zéro. On a le plus beau métro au monde, avec des œuvres d'art dans chaque station. Mais les lieux communs, les préjugés, c'est difficile à détricoter. Si Michel Labrec revenait en politique, sa priorité serait de réfléchir à un code de la rue avec des actions concrètes pour apaiser la circulation en ville. On ne peut pas accroître la motorisation et ajouter 20 ou 30 % de véhicules plus gros, plus rapides. Mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Le partage de la voie publique est donc au cœur des débats futurs et pour tout le monde. C'est sûr qu'on aura toujours besoin d'automobiles au Québec, bien sûr. Les cyclistes n'ont pas leur place sur les trottoirs, pas plus que les quasi-motos sur les pistes cyclables. Le vélo doit se faire en combinaison avec les autres moyens de transport. Mais on a privilégié en ville un mode de transport qui tue 1000 personnes par jour dans le monde. On doit ralentir. Qui est Michel Labrec? Cyclo-toureur et grand amateur de vélo, il a assumé diverses fonctions au sein de Vélo-Québec et a contribué à mettre sur pied la Maison des cyclistes, le Tour de l'île de Montréal et la Route verte. Chroniqueur à la radio et à la télé, il a fait ses premières armes dans les médias à l'émission Plaisir, co-animée par Pierre Bourgault et Marie-France Bazot à la première chaîne de Radio-Canada. PDG de Vélo-Québec de 1985 à 2000. PDG du Festival Montréal en Lumière de 2000 à 2009. Président du Conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de Montréal de 2003 à 2005. Conseiller municipal, arrondissement du Plateau Mont-Royal, district Mile End de 2005 à 2009. Président du Conseil d'administration de la STM de 2009 à 2013. PDG du Parc olympique de 2014 à juillet 2024. C'était « Monsieur Mobilité », un texte de Luc Boulanger, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.